Notre cantique nous a présenté plusieurs aspects de ce qui est en rapport avec le nom du Seigneur. Et sans suivre pour autant ce qui est dans notre cantique, je voudrais juste aborder quelques aspects de ce qu'évoque, de ce dont nous parle ce nom de notre Seigneur. Je voudrais commencer d'abord par Matthieu au chapitre 1er. La première partie du chapitre nous présente cette généalogie qui est introduite dès le premier verset, en présentant le Seigneur comme lit le premier verset, livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Avec cette généalogie qui nous ramène au verset 17, jusqu'à Christ. Commençons par Abraham, jusqu'à Christ. Et puis la deuxième partie de ce chapitre nous présente cette annonce faite à Joseph. On peut lire cette deuxième partie déjà pour commencer. Or, la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi. Sa mère Marie, étant fiancée à Joseph avant qu'ils fussent ensemble, se trouva enceinte par l'Esprit Saint. Mais Joseph, son mari, étant juste et ne voulant pas faire d'elle un exemple, se proposa de la répudier secrètement. Mais comme il méditait sur ces choses, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, disant « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie, ta femme, car ce qui a été conçu en elle est de l'Esprit-Saint. Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. » Or, tout cela arriva afin que fût accompli ce que le Seigneur a dit par le prophète, disant « Voici, la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on appellera son nom Emmanuel, ce qui interprété est Dieu avec nous. » Or, Joseph étant réveillé de son sommeil, fit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné, et prit sa femme auprès de lui, et il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né, et il appela son nom Jésus. Et si on lit dans Luc, le début de Luc, quelques versets concernant ce même moment, ce même événement, au chapitre 1er d'abord, l'ange qui vient parler à Marie. Chapitre 1er, verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée nommée Nazareth à une vierge fiancée à un homme dont le nom était Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Et l'ange étant entré auprès d'elle, dit « Je te salue, toi que Dieu fait jouir de sa faveur. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. » Et elle, le voyant, fut troublée à sa parole, et elle raisonnait en elle-même sur ce que pourrait être cette salutation. Et l'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici, tu concevras dans ton ventre, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera sur la maison de Jacob à toujours. » Et il n'y aura pas de fin à son royaume. Et Marie dit à l'ange, « Comment ceci arrivera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» Et l'ange répondant lui dit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. » Et voici Élisabeth, ta parente, elle aussi a conçu un fils dans sa vieillesse, et c'est ici le sixième mois pour celle qui était appelée stérile, car rien ne sera impossible à Dieu. Et Marie dit, voici l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange se retira d'auprès d'elle. Dans ces deux passages qui nous présentent deux côtés, deux points de vue de la même chose, du même moment, Matthieu nous présente des choses comment Joseph les a traversées, Luc nous présente dans ses chapitres comment Marie les a traversées. Les deux récits se rejoignent après en nous présentant la suite des événements avec Marie et Joseph et Marie ensemble, au moment de la naissance du Seigneur. On reviendra à cet aspect dans Luc après. Et dans ces deux passages, le Seigneur nous est introduit déjà sous plusieurs noms qui évoquent chacun pour lui-même bien des choses et qui, mis ensemble, nous présente plusieurs facettes, à la fois de la personne du Seigneur Jésus, de ses gloires et du pourquoi c'est devenu sur la terre. Dans Matthieu, l'ange qui apparaît à Joseph lui donne des indications précises, lui explique ce qui se passe, lui dit de ne pas craindre, de lui explique que tout cela vient de Dieu et lui donne des instructions. Verset 21, « Elle enfantera un fils et tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. » La note, Jésus nous dit, « Le Seigneur Dieu ou l'Éternel sauve. » Littéralement, Jésus, c'est Josué, c'est le même nom, l'Éternel sauve ou l'Éternel est sauveur. Tu appelleras son nom Jésus. Un renvoi direct à l'Éternel que Joseph connaît comme son Dieu. Le nom que Dieu a utilisé pour se révéler à Israël, l'Éternel. L'Exode à Moïse se présentant comme « Je suis celui qui suis ». Le mot éternel, Olivetan a choisi ce mot pour traduire en français le Yahvé de l'hébreu comme étant un sens le plus voisin. Apparemment, ceux qui connaissent l'hébreu nous disent que Yahvé se rapproche à une même racine commune avec le je suis de l'Exode 2. Celui qui n'a pas de commencement ni de fin, celui qui est en dehors du temps. En dehors du temps, c'est quelque chose que nous avons bien de la peine à imaginer. Ce mot éternel nous parle bien de cela. Pas de début, pas de fin, quelque chose que nous ne saisissons pas. Et ce nom de Jésus, l'Éternel sauve. Il n'est plus question d'un salut que l'homme accomplirait par lui-même. Il est question d'une personne venant là sur terre, comme un homme, enfant, né de femme, qui sera le salut lui-même. Car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Dans Matthieu, là, on est encore dans le contexte d'Israël. L'horizon ne dépasse pas le peuple d'Israël, pour le moment. Mais la suite du paragraphe continue en rappelant ce que les prophètes ont annoncé avec cette citation d'Ésaïe. La Vierge sera enceinte et enfantera un fils et on appellera son nom Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Le L de Emmanuel étant correspondant à Dieu. Dieu avec nous. L'Éternel sauve, Dieu avec nous. On n'est plus sur un terrain de, comment dire, ce n'est pas Dieu qui scrute pour voir l'état des cœurs, c'est Dieu qui connaît l'état des cœurs et qui agit parce que dans ces cœurs, il n'y a pas d'issue. Israël a montré, tout l'Ancien Testament nous passe cela en revue, que l'homme est incapable d'accomplir, de faire, de suivre, de respecter, d'entrer dans la volonté de Dieu. que de désobéissance, que de murmures, que d'infidélité dans la marche d'Israël. Et il ne s'agit pas pour nous d'accuser Israël. Israël est l'illustration de ce qu'est le cœur de l'homme. Un peuple mis à part, à qui Dieu s'est fait connaître d'une manière particulière, à qui Dieu a fait des promesses, à l'égard de qui Dieu a agi en délivrance, les tyrans d'Égypte, pour les amener en Canaan, les amener non pas dans un lieu aride qu'il faut défricher, irriguer pour que quelque chose pousse, non, les amenant dans un pays présenté comme ruisselant de lait et de miel. Et nous connaissons la suite de l'histoire, c'est l'histoire de l'homme. Alors Dieu intervient et cette intervention est résumée, au fond, concentrée, résumée dans ces deux noms qui nous sont présentés là. Jésus, l'Éternel sauve, Emmanuel, Dieu avec nous. Non plus Dieu contre nous, Dieu avec nous. Non pas fais ceci et tu seras sauvé, non, l'Éternel sauve. Alors si on regarde dans Luc, ce qu'on a lu dans Luc, l'ange parlant à Marie présente des choses similaires. La même instruction est donnée. Tu appelleras, verset 31, son nom Jésus. L'explication, le complément n'est pas dit là. Mais quelque chose de plus est dit. Quelque chose qui ne concerne plus ce que va faire cet enfant, ce que deviendra cet enfant sauveur, révélant Dieu sous un autre jour au milieu du peuple, mais ce qu'il est en lui-même. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera sur la maison de Jacob à toujours, et il n'y aura pas de fin à son royaume. Déjà bas d'abord ça, plus loin on a encore un prochain aspect, Fils du Très-Haut. Dieu qui est présenté non plus là comme l'Éternel ou comme Dieu, mais comme le Très-Haut, celui qui est au-dessus de tout. Fils du Très-Haut. Après, il est dit, il est parlé du trône de David, son père. Il est parlé de régner. Il est parlé d'un royaume. C'est tout le côté de la position d'autorité, de la position d'autorité de celui à qui est donnée la place d'autorité, à qui est donnée aussi, associée à cette place d'autorité, la gloire de celui qui a l'autorité, la grandeur. Le trône de David, en relation avec ce royaume qui n'aura pas de fin, c'est la réponse. C'est l'accomplissement de ce qui a été promis à David. David, il lui a été dit, ton royaume, celui qui viendra après toi, un celui qui n'est pas nommé, quand les choses sont révélées à David. David, dans un premier temps, a peut-être pu croire que ce serait son fils, mais en même temps, ce qui lui est annoncé montre que ça va bien au-delà. Mais il y a un de ses descendants qui sera roi de sa lignée, fils de David, mais dont le royaume n'aura pas de fin. Donc un royaume d'un autre ordre, un royaume qui n'est pas terrestre, dans le sens que les choses terrestres ont toutes leur fin. Si on repasse en revue le livre de l'Ecclésiaste, nous fait un parcours à travers ce qui est limité à la terre, à ce qui n'a pas d'autre horizon que la terre. Ben, vanité, des vanités, tout est poursuite du vent, les choses commencent et les choses terminent et ont eu fin sur la terre. Là, il s'agit d'autre chose. Il s'agit de quelque chose qui n'est plus terrestre, qui va sur une autre dimension, un royaume qui n'a pas de fin. Donc Jésus, Emmanuel, fils du Très-Haut, dans le côté du lien direct avec celui qui domine sur toute chose, et puis, de la lignée de David, descendant de David, et on peut dire le descendant de David qui compte, celui qui régnera sur ce royaume qui n'aura pas de fin. Et puis alors l'ange continue pour préciser les choses à Marie, répondant à la question sur ce comment cet enfant va venir. Oui, c'est une naissance, c'est une conception miraculeuse. L'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut très haute te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. Je ne sais pas si on peut le dire comme cela, mais c'est peut-être pas tout à fait juste, comme je le dis, parce qu'on ne peut pas comparer les choses, mais est-ce que Fils de Dieu, c'est quelque chose qui va au-delà de Fils du Très-Haut? Pourtant, Dieu est le Très-Haut, et Dieu en tant que Très-Haut, c'est un autre aspect de lui-même. Alors au fond, c'est un peu dans un sens équivalent, mais en même temps, ça nous fait entrer dans une autre sphère. Fils de Dieu, il sera appelé Fils de Dieu. C'est des choses que nous ne pouvons pas sonder, bien sûr, dans lesquelles nous avons même de la peine à entrer, mais qui sont profitables à considérer en ce que nous les mettons en regard, elles nous mettent face à face à la fois la grandeur du Seigneur Jésus, grandeur insondable, et la proximité quand nous le considérons comme cet homme sur la terre. Homme au milieu des hommes, homme qui a marché au milieu des hommes, qui a été avec ses disciples, mangeant à la même table, ayant des conversations avec eux, marchant avec eux dans le chemin, qui a connu tout ce que connaît un homme, tout ce temps dont nous ne savons que la naissance, cette chose qui s'est passée quand il avait 12 ans, puis après il apparaît, d'après ce que l'on peut calculer, vers la trentaine d'années. Et pendant tous ces 30 ans, qu'a-t-il vécu? Nous ne savons pas. Il a vécu comme un homme, à part le péché. Il a connu tout ce que nous avons connu, tout ce que nous pouvons connaître comme homme. Et cela nous parle de cette proximité si grande. Mais là, nous le voyons, Fils du Très-Haut, Fils de Dieu, Salut de Dieu. Alors, Sauveur, Dieu Sauveur, si on tourne la page, au chapitre 2, on a cette rencontre entre Joseph, Marie, avec l'enfant Jésus, à Jérusalem, au Temple et Siméon. Et si on considère chapitre 2, verset 26, Siméon avait été averti divinement par l'Esprit Saint qu'il ne verrait par la mort, que premièrement il n'eût vu le Christ du Seigneur. Et il vint par l'Esprit dans le temple, et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour faire à son égard son usage de la loi, il le prit entre ses bras, et bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton esclave en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples, une lumière pour la révélation des nations et la gloire de ton peuple Israël. » On s'arrête là, on lira encore les deux derniers versets suivants après. Il avait été averti divinement par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort, que premièrement il n'eût vu le Christ du Seigneur, un autre nom encore du Seigneur. Le Christ, le Messie, c'est le même mot en grec et en hébreu respectivement, Christ en grec, Messie en hébreu, qui signifie loin, loin. Ça rejoint ce qu'on a vu dans ce qui est dit à Marie. Le trône de David son père, celui qui a été loin, David a été oint par Samuel, Dieu montrant par ce geste de Samuel qu'il avait choisi David comme celui qui était le roi selon son cœur. Le Christ, le Messie, c'est celui qui est oint de Dieu, qui a été choisi par Dieu. Désigné expressément. Et ce nom de Christ s'est attaché à travers tout le Nouveau Testament au nom de Jésus. Jésus-Christ, le Christ Jésus. Si on lit juste rapidement un passage dans le livre des Actes, au chapitre 17, à Thessalonique, quand Paul est dans la synagogue, et il enseigne dans la synagogue, il nous est dit, verset 2, et selon sa coutume, Paul entra vers eux, et pendant trois sabbats, il discourut avec eux, d'après les Écritures, expliquant et exposant qu'il fallait que le Christ souffrît et qu'il ressuscita d'entre les morts, et disant que celui-ci, Jésus que moi je vous annonce, est le Christ. Celui-ci, Jésus que moi je vous annonce, est le Christ. Et là, un peu plus loin dans le même chapitre, il nous est dit qu'à Bérée, que je trouve la ligne, ils reçurent, verset 11, au milieu, ils reçurent la parole avec toute bonne volonté, examinant chaque jour les Écritures pour voir si les choses étaient ainsi. On peut penser qu'à Bérée, Paul n'a pas présenté des choses différemment d'un Thessalonique. Ils ont pu entendre exactement la même chose que ce qu'on vient de dire. Celui-ci, Jésus, que moi je vous annonce, est le Christ. Et ils ont regardé dans la parole, donc l'Ancien Testament, vérifié si ce que Paul leur disait était bien selon les Écritures. Christ, Siméon, avertit qu'il ne verrait pas la mort, que premièrement il n'eût vu le Christ du Seigneur, loin du Seigneur. Et on imagine cette scène de Siméon conduit par l'Esprit qui va dans le temple à ce moment-là, et qui vient à la rencontre de Joseph et Marie avec l'enfant Jésus, et qui prend cet enfant des bras de Marie. Joseph et Marie n'avaient pas de raison de connaître particulièrement Siméon, on n'en sait rien. Peut-être qu'ils te connaissaient, peut-être pas, nous n'en savons rien. Mais voilà, ce vieillard qui vient, prend cet enfant des bras de Marie, et ils entendent Siméon dire ces paroles. Mes yeux ont vu ton oint, le Messie, non, ton salut. Pour Siméon, il est évident que le Messie envoyé par Dieu, c'est celui qui sauvera, qui est là, venu, qui viendra pour accomplir cette œuvre de salut. Et mes yeux ont vu ton salut, lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples, une lumière pour la révélation des nations, et la gloire de ton peuple Israël. Quel regard chez Siméon! Il voit au-delà d'Israël. À Joseph, l'ange n'avait pas présenté les choses plus loin. Si on regarde dans le chapitre 1er de Luc, à la fin du chapitre, ce que, aussi bien même Marie dans sa prière, dans sa louange du chapitre 1er, mais surtout Zacharie dans cette louange, il ne voit pas plus loin qu'Israël. Siméon voit bien l'au-delà. Il voit bien que ce salut est une lumière pour la révélation des nations, qu'il a été préparé devant la face de tous les peuples, qu'il est pour la révélation, lumière pour la révélation des nations et la gloire de ton peuple Israël. Un autre nom qui apparaît, lumière. Le Seigneur Jésus lui-même dira qu'il est la lumière du monde. Un autre nom encore pour lui. La lumière qui vient dans les ténèbres. Jean nous en parle. Et les nations, les peuples, Israël, tout placé ensemble sur le même horizon. Un salut qui ne vient pas que pour Israël, mais qui vient pour toute créature. Alors si on va plus loin sur un autre aspect de ce nom du Seigneur, on pourrait passer beaucoup de choses en revue, mais je ne vais pas être trop long non plus. Dans le livre des Actes et dans Pierre, on a à deux reprises, de la même manière, le livre des Actes, chapitre 11, Barnabas est allé à Antioche, puis a cherché Paul à Tarse pour le ramener à Antioche. Et verset 26, il leur arriva que pendant un an tout entier, ils se réunirent dans l'assemblée et enseignèrent une grande foule, et que ce fut à Antioche premièrement que les disciples furent nommés chrétiens. Et on a ce même mot de chrétien que Pierre mentionne dans un contexte très différent. 1 Pierre 4, si je me souviens bien, c'est chapitre 4. Verset 14, si vous êtes insulté pour le nom de Christ, vous êtes bien heureux. Chapitre 4, verset 14. Si vous êtes insulté pour le nom de Christ, vous êtes bien heureux car l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous. Un peu plus loin. Je ne retrouve pas la ligne. Voilà, verset 16, mais on peut lire verset 15, continuez. De leur part, il est blasphémé, mais quant à vous, glorifié, mais que nul de vous ne souffre comme meurtrier ou voleur ou comme faisant le mal ou s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu en ce nom. Et puis un troisième passage encore dans le livre des Actes, quand Paul est arrêté sur le chemin de Damas. Chapitre 9, verset 3. Comme il était en chemin, il arriva qu'il s'approcha de Damas, et tout à coup une lumière brilla du ciel comme un éclair autour de lui, et étant tombé par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Si on commence par ce passage, sur cet aspect-là, Paul n'avait pas conscience. Je dis les choses autrement. Paul, devant cette lumière, reconnaît que c'est Dieu lui-même qui lui parle. Que cette lumière est une lumière divine, que ce n'est pas juste un éclair ou le soleil qui est plus brillant que d'habitude. Dans ce récit, et si on met ce récit-là avec les deux autres récits qu'on a plus loin dans le livre des Actes, on voit avec des mots différents, cette lumière est décrite plus clair que le soleil en plein midi, par exemple, on voit que c'est une lumière unique, particulière. Et Paul le reconnaît tout de suite et reconnaît que c'est Dieu qui parle. D'où sa question, « Qui es-tu, Seigneur ?» Il entend cette voix qui lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ?» C'est un chamboulement dans l'esprit de Paul. Là, Dieu l'arrête et dit que, lui-même, Saul, est en train de persécuter celui qui parle. Qui es-tu? Et la réponse n'est pas « Je suis l'Éternel ». C'est vrai. La réponse n'est pas « Je suis le Très-Haut ». C'est vrai. Ce n'est pas non plus « Je suis le Créateur ». C'est encore vrai. Non. C'est plus précis. Et c'est plus précis en rapport avec cette révélation que Dieu veut donner de lui-même, là, à ce moment. Dans ce temps-là, ce temps des Actes, ce temps de l'Évangile, ce temps d'aujourd'hui. Je suis Jésus que tu persécutes. Que faisait Paul ? Il persécutait ceux qui se revendiquaient de Christ. Du Christ Jésus, de Jésus-Christ, appelons, on peut l'appeler de plusieurs manières, là. Et on a cette identification des croyants, de ceux qui ont reçu le Seigneur, avec le Seigneur lui-même. Alors, à Antioche, quand on les a commencé à les appeler chrétiens, ça pouvait être une manière de les reconnaître parmi d'autres, c'est ceux qui parlent tout le temps de Christ. Dans Pierre, il semble qu'il y a un caractère un peu de mépris ou de moquerie, souffrir comme chrétien. Mais qu'est-ce que ça traduit pour nous? Ça traduit cette identification qui est la nôtre aujourd'hui avec le Seigneur. Si je peux le dire comme ça, il nous permet de porter son nom. Il nous permet, il nous associe à lui d'une telle manière que nous pouvons porter son nom. Alors un dernier passage par rapport à ce nom, c'est ce passage qui nous est familier de Philippiens 2. Philippiens 2, à partir du verset 5, « Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus, lequel étant en forme de Dieu n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé. Il lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes et terrestres et infernaux, et que tout en confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. C'est un aspect de cette identification que nous sommes appelés à vivre avec le Seigneur. Qu'il y ait en nous cette pensée-là, que les versets suivants nous décrivent. Mais la fin de ce paragraphe, Dieu l'a haut élevé, c'est quelque chose qui est réservé exclusivement au Seigneur lui-même. C'est lui qui a accompli cette œuvre. Qu'il y ait en nous la pensée qui a animé le Seigneur, c'est quelque chose que nous pouvons apprendre à réaliser. Et il faut toute une vie, probablement, pour n'en réaliser qu'un tout petit bout. Mais la réalisation, la pleine réalisation de cette pensée, c'est le Seigneur seul qui l'a faite. Alors il y a cet aboutissement. Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. La note nous dit « ce nom qui est au-dessus de tout nom ». Afin qu'au nom de Jésus, c'est le nom de Jésus qui revient, ça reste son nom à lui. Tous les autres noms qu'on a vus sont en même temps des noms et des qualificatifs. Des noms qui se rajoutent à ce nom de Jésus. Le concentré, si je peux dire, en termes de nom, c'est vraiment Jésus, l'Éternel Sauveur. Dieu fait tout en Jésus. Et ce nom de Jésus le place, disons, son œuvre accomplie le place avec ce nom dans cette position où tout genou se ploie des êtres terrestres, célestes, terrestres, infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. On n'a pas encore vu ce mot, il apparaît aussi à travers tout le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus. On peut d'ailleurs remarquer, et c'est peut-être quelque chose auquel vaut la peine qu'on s'y arrête, les évangiles nous parlent de Jésus. Après l'œuvre de la croix, les épîtres, les actes, nous parlent du Seigneur Jésus. Il faut peut-être veiller, dans la manière dont nous parlons, de préférer parler du Seigneur Jésus que de parler de Jésus. Les hommes dans ce monde, ils parleront de Jésus, en le mettant sur le même niveau qu'un Platon, qu'un Aristote, que des grands philosophes. Nous ne connaissons autrement. Nous le connaissons comme notre Sauveur et comme notre Seigneur, comme le Seigneur Jésus. Et ça vaut la peine de le dire pour marquer la différence. Il n'est pas juste un homme, il est le Seigneur Jésus. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. On pourrait certainement voir encore bien des passages qui nous présentent d'autres aspects de ce qu'est le Seigneur en lui-même, de ce qu'il est pour nous, de ce qu'il est aussi, dans un temps encore que nous attendons, quand il viendra chercher les siens, d'une part, mais quand il sera juge de toute la terre aussi. Mais déjà, si on médite un peu sur ces différents noms, Jésus, Emmanuel, le Christ, le Messie, le Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu, on a quelque chose qui nous nourrit et qui nous encourage.
Le nom de Jésus, comme l'a dit notre frère, c'est l'éternel Dieu et Sauveur. Et comme dit l'apôtre Pierre, il n'y a pas d'autre nom sous le ciel qui nous soit donné parmi les hommes pour être sauvés, acte 4, verset 12, que le nom de Jésus. Et le nom de Jésus, quand on lit dans Apocalypse 3, à Philadelphie, celui qui n'a pas le témoignage que nous avons à rendre sur la terre, que ne pas renier ce nom de Jésus, tu n'as pas renié mon nom. On peut lire Apocalypse 3, verset 8 et verset 12.
Je connais tes œuvres, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Car tu as peu de force, et tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Verset 12, celui qui vaincra, je me ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et ne sortira plus jamais dehors, et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom.
Nous avons chanté aussi le nouveau nom. Quel est ce nouveau nom, sinon le nom de Jésus? C'est le nom qui portera toujours dans le ciel. Il est venu, appellera son nom Jésus. Et dans le ciel, il portera ce nom de Jésus. Et ce nom, nous l'avons à glorifier sur la terre, à garder sa parole, ne pas renier son nom. Alors, à celui qui vaincra, ceux qui sont fidèles, alors... Il y a plusieurs fois ce « mon Dieu » qui est écrit dans le verset 12. Alors, mon nouveau nom, le nom de Jésus.